Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Éric Figuère et Pierre Forest. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du football avec la 28e journée de Ligue 1 et du rugby avec les 8e de finale de la Champions Cup. En deuxième partie d'émission, nous commenterons les résultats sportifs de la semaine et enfin nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. On va commencer, Éric Figuère, avec le football, la 28e journée de Ligue 1. Et ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est que l'Olympique de Marseille, qui vous est cher à tous les deux, messieurs, a repris la deuxième place du classement.
Oui, effectivement, ça n'a pas été sans mal, hein, puisqu'on a vu, on n'a quand même pas vu un énorme match de football. On a vu par contre de très très beaux buts, ça fait toujours plaisir. Des buts contre son camp d'ailleurs assez fabuleux aussi du Toulousain, le pauvre. Et puis de très beaux buts des Marseillais, Greenwood et Rabiot. Donc ils reprennent difficilement la deuxième place. Bon, ça va être serré jusqu'à la fin vu l'inconstance de tous les clubs en présence pour la qualification pour la Champions League. Mais bon, voilà, ça fait après 3 défaites d'affilée, ils reprennent les, si ce n'est les commandes, puisque les commandes on sait qui les tient et depuis bien longtemps, puisque c'était quand même, et je sais que tu vas en parler le soir, en tous les cas le week-end du titre pour le Paris Saint-Germain. Qui est malheureusement, et j'avance un peu avant que tu m'en parles, presque, et c'est dommage, un non-événement, puisqu'on savait qu'il serait champion, même si on attend toujours mathématiquement que le titre soit acquis, mais ça l'était déjà depuis bien longtemps, au terme d'un match un peu tristounette, effectivement, de Paris, mais ils ont fait l'essentiel, c'est ce que font les grandes équipes, ils font l'essentiel,
un
ils
ramènent les 3 points. Oui, un match où surtout les joueurs du PSG ont cherché à ne pas se blesser avant l'échéance européenne.
Voilà, mais c'est souvent, ils ont tort, on pourrait dire que je n'ai pas de leçon à leur donner, mais on sait très bien que c'est souvent en jouant à moitié ou aux 3/4, en retenant ses coups, entre guillemets, qu'on finit par se faire mal. Donc tant mieux, ils n'ont pas eu de blessés, c'est le principal, puisque la Coupe d'Europe arrive. Mais pour revenir sur Marseille, voilà, y a encore trop d'inconstances pour que cette deuxième place, aujourd'hui, avec un point d'avance, me semble-t-il,
deux points sur Monaco et 3 sur Strasbourg, voilà, qui est en pleine bourre, les Strasbourgeois qui continuent sur leur lancée. Hein. Ils ont encore gagné ce week-end 1-0 à Reims. Ils sont vraiment, on l'avait dit déjà la semaine dernière, c'est eux qui ont la plus belle dynamique dans ceux qui jouent la deuxième place.
5 victoires d'affilée, c'est quand même pas rien, donc voilà. C'est plus qu'une bonne dynamique, tu as raison. Ils peuvent tout à fait continuer comme ça et venir.
203 points de la deuxième place
et
finalement.
Et venir gratter plus qu'un strapontin, une belle place pour la Champions League. Alors ce serait formidable pour Strasbourg et je n'ai évidemment rien contre ce club qui mériterait, si d'aventure il devait aller au bout, de vivre la Champions League l'année prochaine. Maintenant. Voilà, avec quelles armes, quels arguments ils pourraient bien vivre l'année prochaine. Alors Brest nous a fait un peu mentir cette année puisque
nous a fait complètement mentir.
Voilà, on pensait que ce serait difficile pour eux après cette belle qualification et cette belle campagne de l'année précédente. On pensait qu'ils auraient des difficultés en Coupe d'Europe et en fait ça n'a pas été le cas, même si sur la fin ça a été un petit peu plus compliqué. Strasbourg peut effectivement réitérer la même saison que Brest. Je pense que ça va être quand même difficile, mais en tous les cas, ils peuvent aller au bout sur une des 4 places ou au moins une qualification pour la Coupe d'Europe.
On a alors le grand perdant de cette journée, c'est Monaco, pour le coup, qui s'est incliné à Brest 2-1. Il est fait un peu surprise, même si.
Oui, malgré tout, Brest reste une équipe difficile à battre, une équipe qui joue très bien et qui a besoin, Brest aussi, de gagner quelques points pour se requalifier, si ce n'est pour la Champions League, ça va être trop difficile maintenant, mais au moins pour peut-être une Coupe d'Europe. Ils sont quand même assez loin, ça va être difficile.
4
points sur le 7e, ça va être difficile. Et devant, évidemment, tout le monde va s'employer, il reste 6 matchs, je pense, maintenant. Tout le monde va s'employer, évidemment, à ne rien laisser en route.
Entre Monaco et Lille, il y a 6 équipes en 3 points.
Oui, sachant que Marseille n'a aucune certitude sur les prochains matchs à venir. Donc, je crois qu'il y a un Marseille-Monaco qui se...
Alors, la prochaine
précise,
journée, en tous les cas, Marseille se déplacera à Monaco, exactement.
Voilà.
Donc, ce match-là, il vaut cher.
Il y a deux belles oppositions.
Et il y a Strasbourg qui recevra Nice aussi.
Donc, exactement. Ces 4 équipes sont en lice.
Ces 4 équipes-là sont en train de s'en faire partie des 6 qui sont dans les 3 points.
Tout à fait. Ça nous promet une belle journée. Bon, toutes les dernières journées, là, vont être à couteau tiré. Donc, il va y avoir, si ce n'est de beaux matchs, en tous les cas, de belles empoignades. Parce que le jeu pratiqué, du suspense, parce que le jeu pratiqué, malheureusement, n'est quand même pas extraordinaire. Alors, j'imagine qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, hein, bien sûr, mais en tant que supporter, en tant que simplement amoureux du foot, c'est pas glorieux. Et on le voit d'ailleurs, on l'a vu, on a parlé de Marseille tout à l'heure. Il y a eu une semaine, ils ont eu une semaine très difficile, puisque le coach de Zerbi avait quasiment perdu son vestiaire. Il alterne comme beaucoup de coachs font, parce que c'est comme ça que souvent que ça fonctionne. La carotte et le bâton, un coup ce sont les meilleurs et on les adore, un coup ils sont bons à rien. Mais alors quelquefois ça marche, quelquefois ça dérape. Et malheureusement, c'est pour l'avoir vécu, c'est compliqué parce que les joueurs, on le sait, quel que soit le niveau, ne donnent pas toujours le meilleur d'eux-mêmes. Et un coach, avant tout, au-delà de la victoire, ce qu'il demande, c'est 100% d'investissement. Et on sait que c'est pas toujours le cas. Et on le voit, de toute façon, faut pas être grand clair, comme on dit, pour s'en apercevoir. Voilà. Greenwood, d'ailleurs, qui marque un but extraordinaire.
Ça a même été dit par les joueurs eux-mêmes. Hein. On sait que Adrien Rabiot l'a dit lors de la dernière défaite.
Il a remué un peu, il a secoué un peu, comme on dit, les cocotiers. Ça a manifestement fait bouger un petit peu les lignes. Mais tous ces joueurs-là, et parce que les lignes, elles ont déjà été bougées dans la saison, comme elles le sont d'ailleurs dans les autres clubs. Et puis très vite, pour beaucoup, ça retombe. Voilà, et il n'y a rien de pire, et on est tous là, on est des sportifs autour de la table, et ceux qui nous écoutent pour beaucoup le sont aussi. Voilà, l'important, c'est de donner le meilleur de soi-même. Voilà, c'est pas de... Voilà, donc on verra.
On va faire un petit clin d'œil au FC Nantes Atlantique qui est allé gagner à Nice. Jamais facile d'aller gagner à Nice.
Nice qui veut performer, qui veut jouer la Coupe d'Europe et la plus belle en tous les cas. Donc belle performance. Mais...
Et surtout, ça permet à Nantes de sortir un petit peu la tête de l'eau, de s'éloigner de la zone dangereuse en prenant la 13e place.
Absolument, absolument. Ils sont plutôt pas mal. Alors bien sûr que 30 points, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour
encore,
ne pas redescendre.
Voilà, 35 points, on estime le maintien.
Voilà, il y a suffisamment
points.
De matchs encore. La dynamique est plutôt intéressante. 2 victoires sur les 3 derniers matchs. C'est pas inintéressant loin de là. Cette victoire contre Nice est très 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 importante. Je pense que ça devrait leur permettre de gérer une bonne fin de saison. Après, pour les derniers, bon, Montpellier, voilà, la cause est entendue, comme elle l'était entendue en haut du tableau.
Oui, elle est doublement entendue, puisque donc Montpellier a donc perdu ce week-end...
Cinquième défaite d'affilée.
Contre le Havre, qui était un adversaire direct au maintien. Mmh. Et puis, la sanction est tombée sur le match qui avait été interrompu contre Saint-Étienne. Match perdu sur tapis vert. Donc,
La messe est dite. Ils vont malheureusement quitter la Ligue 1. Saint-Étienne suit un peu le chemin, mais a encore de la place pour s'en sortir. Mais malheureusement, les matchs, il reste plus beaucoup de matchs aujourd'hui.
Il reste 6 journées.
Et chaque match va valoir double ou triple. C'est toujours exagéré quand on dit ça,
qui plus est si on rencontre un adversaire direct.
Exactement. Exactement. Donc il est plus que temps jusqu'à effectivement Nantes. Même Rennes, moi je vois Rennes quand même en difficulté, les résultats ne sont pas très bons.
Mais comme ils ont déjà 32 points, ils seront, même si ça ne va pas très bien, je pense qu'ils s'en sortiront.
Ils ont suffisamment d'avance sur Saint-Étienne, effectivement, que ça continue quand même. 3 défaites.
En 6 journées, ça voudra dire...
Ouais, 3 défaites sur les 4 derniers matchs quand même. Hein, c'est
mais ça voudrait dire aussi que les derniers se mettent
ça
à gagner
dire
les
aussi.
Matchs.
Et a priori ça n'arrivera
pas. A priori.
Ils ne peuvent pas tous gagner leurs matchs, puisqu'il y aura aussi des oppositions direct, comme tu disais. Donc, à un moment donné, il y a forcément 2 ou 3 clubs dans les 6-7 derniers qui vont forcément laisser de grosses plumes. Donc, ça devrait pouvoir le faire.
Pierre Forest, on va commenter un petit peu ce qui a l'air banal, comme le disait Eric Figuère, mais le 13e titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est quand même, il faut pas non plus banaliser la performance du PSG, je pense, qui est toujours invaincu.
Absolument pas.
Dans ce championnat.
Absolument pas, ne serait-ce que par rapport à ce que le club a réalisé ces dernières années, puisque je crois que les années se suivent et se ressemblent, malheureusement. Hein, il n'y a pas de contradiction et des clubs qui peuvent contredire ce qu'on attend surtout du PSG, ben c'est ce qui va arriver au courant de la semaine, hein, jeudi, c'est-à-dire évidemment un aussi bon parcours en Coupe d'Europe, puisque ça fait longtemps qu'on attend cette équipe remporter la Coupe d'Europe. Et donc, je crois que cette année, les clignotants sont ouverts, donc ils sont débarrassés maintenant du championnat. Il faut espérer qu'ils aillent maintenant au bout de leur de leur objectif, qui est quand même la Coupe d'Europe.
Ouais, maintenant aussi d'être invaincu, je crois que c'est un bel objectif pour Paris. Je crois que ça va leur permettre de rester motivés pour la fin de la saison et préparer au mieux le quart de finale, évidemment. Mais c'est un bel objectif, ça n'est jamais arrivé dans le championnat de France, rester invaincu tout au long de la saison. Donc voilà, ils ont toutes les armes pour aller jusqu'au bout.
Donc on l'a dit, Coupe d'Europe, Ligue des Champions cette semaine. Le PSG recevra Aston Villa jeudi matin pour nous. Messieurs, qu'est-ce que vous inspire ce match ? Ça ressemble un peu finalement à un match, le fameux match d'après, quand on a sorti gros morceau avant.
Oui, à la différence près que Paris cette année est quand même un niveau au-dessus de tout ce qui nous
PSG
a montré.
PSG favori, ouais, bien sûr.
Ouais, Paris est vraiment beaucoup beaucoup plus fort.
Aston Villa est pas là par hasard quand même.
Hein. Mais c'est forcément il y avait un bémol. Aston Villa est tout sauf une équipe facile à battre. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à se méfier, parce que les Anglais, d'abord, on sait, ont le fameux fighting spirit, pardon. Et donc, on sait qu'ils lâcheront rien. Ils ont une bonne dynamique en championnat d'Angleterre, donc avec de très, très bons joueurs. Donc, une équipe très, très dangereuse. Mais voilà, évidemment, encore une fois, on peut pas s'avancer à 100%. Mais Paris est véritablement trop fort cette saison. Ils savent quel est leur objectif principal, maintenant que le titre est acquis en championnat de France. Donc, voilà, je pense qu'ils sont un ton au-dessus. Et encore une fois, si Paris, comme toutes les équipes favorites ou tous les sportifs lorsqu'ils sont favoris, c'est pas compliqué. Quand il y a un vrai favori, si le favori fait son travail, fait ce qu'il a à faire à son niveau, il ne sera pas battu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si Paris est un ton en dessous, manque un peu de réussite bien sûr, Aston Villa pourra effectivement les déranger pour le coup, c'est un vrai adversaire, mais si Paris fait ce qu'il a à faire, il ne sera pas battu.
Le match aller cette semaine, le match retour la semaine prochaine, donc, et pas de match de championnat pour le PSG entre les deux, puisque le fameux Nantes-PSG a été reporté par la Ligue de football, donc PSG va, dans les semaines qui arrivent, pouvoir se concentrer exclusivement
sur cette
Ligue des Champions.
C'est une bonne chose, c'est important pour le football français que Paris, même lorsqu'on est supporter de l'Olympique de Marseille, que Paris aille au bout. Je serais très content pour eux. Bon, ils seront à jamais les seconds, hein. C'est une certitude, hein. Mais malgré tout, pour le football français, c'est l'intérêt général qui prévaut quand même pour un supporter marseillais, voilà, que Paris aille au bout.
Dans les autres quarts de finale de cette Ligue des Champions, on a des belles affiches avec un Barcelone-Dortmund.
Ah, il y a de très belles affiches.
Arsenal-Real Madrid et un Bayern-Munich-Inter de Milan.
On peut presque penser que l'affiche la plus déséquilibrée, entre guillemets, c'est celle dont on vient de parler, c'est celle de Paris.
Mais on a l'expérience du PSG-Dortmund de l'année dernière.
Voilà, Dortmund n'était quand même pas, pour le coup, pas favori contre Paris et ils ont réussi à se qualifier. De très très belles affiches.
On se languit déjà si Paris passe ce cap de...
Ouais, bon après, ils ont battu Liverpool.
Il y aura le Real de Madrid derrière.
Non, ouais. Donc, le Real qui n'est plus, mais qui reste toujours. Ouais.
De mars à mai doit être la meilleure équipe du monde.
Voilà, bon après, là on arrive en quart de finale. Ils ont tiré l'équipe qui potentiellement est entre guillemets un tout petit peu plus faible, on l'a déjà dit, mais à partir des quarts et a fortiori en demi-finale, il n'y a que des gros. Toutes les équipes, à l'exception de Paris, Arsenal de mémoire, je ne crois pas qu'ils aient gagné la C1.
Non.
Donc ça reste quand même, l'Inter l'a gagné, le Bayern l'a gagné, Barcelone bien sûr, Dortmund,
Dortmund l'a gagné deux fois.
Des retrouvailles avec Unai Emery.
Forcément, ils vont être
et ensuite avec Mbappé au prochain tour.
Ah, ce serait alors pour le coup.
Certain Carlo Ancelotti aussi.
Pour le coup, ce serait une belle affiche. On s'avance un petit peu, mais un Real Paris serait quand même là pour le coup, une superbe affiche.
Bon, en tant que supporter, on va faire comme Luis Enrique. On va prendre les matchs les uns après les autres. On va suivre avec beaucoup d'attention la fin de cette Ligue 1 de football et puis cette Ligue des Champions dès cette semaine.
Voilà, c'est comme au golf, un coup après l'autre.
Exactement. Voilà. Mais si on va passer au rugby, c'était les huitièmes de finale de la Champions Cup ce week-end. Il y avait six clubs français engagés, Pierre Forest. Quatre se sont qualifiés. Deux sont donc passés à la trappe. Il y a eu Clermont qui s'est incliné à domicile, pardon, face à Northampton, 24-46. Et beaucoup de casses aussi du côté de...
Et beaucoup de casses, notamment...
De Clermont.
Notamment le flanqueur, là, qui... Je ne sais pas ce qui est advenu, mais il est sorti sur civière. Donc, comme il est en fin de carrière aussi, donc il aura peut-être du mal à revenir dans l'équipe et aussi peut-être se projeter sur un autre club pour les prochaines saisons.
La Rochelle, qui s'est inclinée aussi, avant de parler des clubs qui
l'ont remporté. La Rochelle s'est inclinée d'un point chez elle. Donc, ça ne va vraiment pas. Il n'y a rien qui tourne à La Rochelle.
Pourtant, c'est conforme à leur résultat en top 14. Hein.
Pourtant, elle était présente ces deux dernières saisons, puisqu'elle a gagné, sur les quatre dernières saisons, elle avait gagné deux fois cette Coupe d'Europe. Et très bien figurée en championnat, en top 14. Et là, depuis le début, ils ont vraiment du mal. Les internationaux sont revenus, comme la plupart des internationaux dans leur club. Mais ça n'accroche pas. Il y a un souci, il y a un problème. Ils n'ont peut-être pas eu l'occasion où ils n'ont pas voulu se régénérer en faisant venir d'autres dans les saisons. Hein. Ils sont restés sur le même effectif, à peu près. Il y a un vestiaire qui est pas loin d'exploser avec O'Gara, quand même.
Le coach
irlandais, de surcroît. Donc, on ne sait pas. Là, ils sont au top 14, ils sont classés 10e. Ça sera difficile, comme toutes les équipes d'ailleurs, d'espérer accrocher la 6e place qui est qualificative. Il reste très peu de journées. Donc, La Rochelle, vraiment, est au plus mal.
Ça ressemble à la fin d'un cycle pour La Rochelle.
Oui, alors qu'il y a des jeunes. Par exemple, je pense au numéro 10, un jeune ouvreur qui était champion du monde avec les moins de 20, Hugo Russ. Qui ne jouait pas souvent, qui faisait un peu banquette avec comment il s'appelle l'ouvreur titulaire, qui lui malheureusement n'est pas souvent appelé en équipe de France. Et donc ce jeune, ils l'ont prêté. C'est le jeu de prêter des jeunes qui font banquette pour acquérir des frayeurs. Hein. Ils l'ont prêté à Biarritz. Non, ils sont prêtés à un club, c'est à Montpellier plutôt, il me semble, hein, Montpellier ou un club de pro D2. Bon, il joue, il excelle, mais bon, c'est là où on voit des choix n'ont peut-être pas été faits à bon escient et voilà. Donc. Mais c'est vrai également que sans des fautes individuelles, on l'a vu sur le match. Un essai tout fait de
Teddy Thomas,
international quand même, à ce niveau-là, ne pas marquer cet essai, de faire un en avant au dernier moment, ou de repiquer au centre.
Repiquer au centre alors qu'il est ouvert à l'extérieur.
Alors qu'il y a un essai au bout, perte d'un point, c'est rageant, mais c'est comme ça. C'est la loi du sport, malheureusement. Mais ils sont pas bien, parce que même si en Coupe d'Europe, ils se qualifient pas, top 14, ça va être difficile.
Ouais, ça va avec la saison, malheureusement. Ouais, c'est un ensemble.
C'est conforme à leurs résultats, effectivement, en top 14.
Alors, par contre, les quatre qui sont qualifiés, c'est conforme un petit peu aux attendus, hein, on va dire ça comme ça.
Là aussi, au classement top 14.
Puisque sur le classement top 14, c'est les cinq premiers. Hein. Il n'y a que Bayonne qui est quatrième, qui n'est pas au rendez-vous, mais Castres est cinquième du top 14. Castres a réussi à se qualifier, hein, brillamment d'ailleurs.
Contre Trévise.
Voilà.
39-37, c'est
voilà.
Vrai quand même.
L'Union Bègles Bordeaux est à sa place hein, et se qualifie facilement.
Alors, match très ouvert entre l'UBB et l'Ulster. 6 voilà. Essais à 5.
6 essais à 5. Toulouse a eu des difficultés en première mi-temps, mais c'est bien pris. Alors, quand on dit que Toulouse a des difficultés, il a eu beaucoup de mal à gagner. Ils ont quand même marqué 5 essais. Mais bon, on est habitué au score fleuve du stade toulousain. Mais ils seront au rendez-vous avec un souci quand même qu'ils ont sur la fin de saison, c'est l'indisponibilité d'Antoine Dupont, leur meilleur joueur.
Qui va durer plus que jusqu'à la fin de saison.
Qui va plus durer que plus que deux
ans. Presque jusqu'à la fin de
l'année. Le jeune Graou, quand il était un peu...
Même pour Toulouse, hein, c'est compliqué d'avoir ce joueur-là en moins quand même.
Le jeune Graou, on se rend compte que le jeune Graou qui suppléait Dupont quand il était en équipe de France, faisait la paire, comme on dit, faisait l'affaire. Et puis là, depuis qu'on lui a mis un peu le numéro 9 titulaire jusqu'à la fin de saison, il fait pas des parties. Et on l'a vu à ce match, hein, il est pas très à l'aise. Alors est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est ce qui peut paraître normal? Oui, donc en demi-mêlée, en dehors de Garou, pour finir la saison, il y a Saito, l'international japonais, qui depuis qu'il est arrivé à Toulouse, n'est pas...
Malheureusement, c'est difficile quand on a un joueur aussi fort,
c'est très difficile
aussi tête d'affiche que les Dupont, c'est difficile.
Et celui qui aurait pu faire la malle également, c'est Capuzzo, l'Italien, qui est très polyvalent, mais qui vient de se blesser à ce match-là, oui. Qui a une belle
blessure à la cheville. Oui, pour la fin de la saison, hein, pour
donc
remplacer Dupont.
On parle de plus en plus peut-être d'un recrutement, puisque Dupont a été blessé en équipe de France, donc ils auraient droit à un joker médical, et on parle de plus en plus de l'ancien puisqu'il a fini à la dernière Coupe du Monde, l'ancien All Black, demi-mêlée des Blacks à la dernière Coupe du Monde.
Oui, et son nom m'échappe à moi aussi. Je suis en train de chercher comme vous.
Pas Pérenara, quand même.
Non, non, non.
Vieux, ça m'a non, non, il s'est arrêté il y a un bon petit moment. Déjà.
Aaron Smith, pardon.
Aaron Smith, exactement.
Ah, oui. Ah, on finira. Ça,
et les Toulousains, ils ont toujours des bons contacts avec les Néerlandais. D'ailleurs, Keller, qui était demi-mêlée de Roblak, a fini
sa carrière à Toulouse.
Sa carrière également à Toulouse. Donc, ils sont là, sur ce projet-là, parce qu'ils ne pourront pas jouer et la Coupe d'Europe et le top 14 jusqu'à la fin, avec des demi-mêlées qui font l'affaire, mais qui ne seront pas au maximum.
On va parler de Toulon aussi, qui s'est largement imposé contre les Saracens, 72-42.
Ouais, alors qu'ils étaient menés à la mi-temps.
Ils étaient menés à la mi-temps, ils ont fait une deuxième mi-temps extraordinaire.
Extraordinaire, Toulon tourne bien, on le voit en top 14, donc c'est dommage qu'ils rencontrent, Toulouse et Toulon se rencontrent en quart de finale. Et là aussi, on regarde un peu la position des clubs, c'est que le Leinster, qui est l'équivalent, la province du Leinster, qui est l'équivalent de l'équipe d'Irlande,
oui, qui est l'ossature de l'équipe d'Irlande.
Ils ont un calendrier qui est propice et qui est très favorable plutôt que les clubs français. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que sur les 4 dernières années, c'est les clubs Toulouse et La Rochelle qui ont gagné les 4 dernières éditions, mais on se retrouve toujours à partir des quarts de finale entre clubs français. Donc, il y a peut-être du favoritisme au niveau des instances pour favoriser les équipes, et surtout irlandaises. Mais ça, c'est Pierre Forest qui le dit.
Alors, on va le laisser mettre de ses propos. En attendant, vous l'avez dit, donc il y a un Toulon-Toulouse qui devrait avoir lieu au Stade Vélodrome de Marseille.
Normalement, au Stade Vélodrome.
Pour faire dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Oui. Donc, grosse affiche de ces quarts de finale. On va lister les trois autres. Le Leinster, donc, vous l'avez dit, qui rencontrera Glasgow, ça semble pour le coup... Là,
il y a un club écossais, un club anglais pour et le deux provinces irlandaises.
L'UBB donc, va rencontrer le Munster qui a donc éliminé La Rochelle.
Exact.
Et Northampton va rencontrer Castres à Northampton en Angleterre. Donc voilà, des beaux matchs en perspective et encore une possible... Alors on est sûr d'avoir un club français en demi-finale.
Oui, et on est peut-être sûr d'avoir un Bordeaux-Toulon ou un Bordeaux-Stade Toulousain en demi-finale. C'est dommage, ça serait une belle finale hein, comme les top 14, mais bon.
Bon, eh bien, on va suivre ça aussi avec beaucoup d'intérêt, en espérant que, voilà, aussi pour l'équipe de France, il n'y ait pas trop de casse.
Juste peut-être, je rajouterais que ce calendrier, puisque c'est encore un couple les quarts de finale ont lieu le week-end prochain.
Exactement, il y a deux tours consécutifs.
Et donc, c'était fait un petit peu depuis que les franchises sud-africaines ont intégré. Alors, on était à la H-Cup avant. La Heineken Cup, hein, pour pas dire autre chose. Ensuite, on a eu le championnat d'Europe des clubs de rugby à 15. Mais comme les franchises sud-africaines ont intégré depuis 2022, il me semble-t-il,
c'est ça.
Donc ils ont débaptisé la Coupe d'Europe pour dire Champion Cup. Et malheureusement, il n'y a aucune équipe au quart de finale, aucune franchise sud-africaine, pour des raisons évidemment qu'on comprend. Hein, donc c'est déjà une aberration de participer à une compétition étant dans l'hémisphère sud, hein, donc déjà d'un point de vue écologique, avec les voyages, que ce soit pour les franchises sud-africaines qui viennent en Europe et surtout pour les équipes européennes, parce que là on part pour 15 jours, et quand on revient, chacun a son championnat, les saisons ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est ça,
l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Ça paraît effectivement une aberration que ces clubs...
On parle de plus en plus qu'ils retournent, qu'ils ne continuent pas l'expérience de participer au Champions Cup et que la Coupe d'Europe reste pour les équipes...
Reste sur le continent européen.
Voilà.
Bon, on va suivre ça aussi avec beaucoup d'attention, mais effectivement, ça génère des déplacements, on l'a vu, qui peuvent générer beaucoup de blessures.
Et en plus, au niveau des résultats, on aurait pu penser que, mais depuis 3-4 ans, il n'y a aucune franchise sud-africaine qui dépasse les quarts de finale. Ils sont toujours restés en rade au niveau des quarts de finale. Donc,
ce qui n'empêche pas l'équipe nationale d'être numéro 1 mondial.
Ouais. Et enfin, la dernière, c'est quand même il y a quand même un aspect pécunier qui est intéressant, hein, puisque chaque club qui participe reçoit 900 000 euros pour tous ses voyages, etc. Et par contre, l'équipe qui gagne cette Coupe d'Europe empoche la bagatelle de 300 000 euros comme prime.
Alors, 300 000 euros, c'est bon ?
300 000 euros, oui. C'est intéressant.
Non, c'est pas énorme.
Non, c'est pas énorme. S'ils ont 900 000 euros, 900 000, tu veux dire 3 millions d'euros, tu veux dire
On n'est pas au football, là.
Oui, j'ai bien compris. C'est malheureusement, d'ailleurs.
Non, c'est ça. Ouais.
C'est ça, d'accord.
Ok, mais si on va passer au bref de cette semaine. En cyclisme, le duel Pogacar-Mathieu Van Der Poel qui va continuer, qui risque de continuer encore un petit moment. Cette fois-ci, c'est Pogacar qui s'est imposé sur le Tour des Flandres, deuxième monument de la saison. Voilà, on sent que le duel est vraiment lancé. Eric Figuer entre les deux et le prochain épisode aura lieu dès le week-end prochain sur Paris-Roubaix, ouais. Où les deux cyclistes sont en lice.
Voilà, c'est les deux monstres actuels qui sont largement, et les résultats le montrent évidemment, largement au-dessus du lot pour ce qui est en tous les cas des courses d'un jour, des classiques. Après, pour les grands tours, bon, le maître reste Pogacar, même s'il aura quand même un peu d'adversité, notamment lors du prochain Tour de France. Mais pour ce qui est des courses d'un jour, oui, ça va nous promettre, et ce sera le premier Paris-Roubaix pour Pogacar.
Exactement.
Donc, qui ne souhaitait pas le courir, et qui pour rentrer dans l'histoire, puisque c'est son objectif.
Exactement.
Et on peut facilement
le comprendre. Il veut cocher toutes les cases.
Voilà, il a déjà un palmarès pas hors du commun, mais hors norme déjà. Et il lui manque le Paris-Roubaix pour s'inscrire encore un peu plus dans l'histoire. Paris-Roubaix, ça reste spécial. On sait qu'en plus, il peut se passer tellement de choses
sur
les pavés.
Il faut un petit facteur chance aussi sur les secteurs pavés, exactement.
Obligatoirement, mais les deux sont tellement forts. Voilà, on va les voir aux avant-postes. Voilà, sauf évidemment fait de course, hein, bien sûr. Mais on va les voir devant.
Donc on va suivre ça dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, le duel va continuer et il est bel et bien lancé.
Voilà, en théorie, Van Der Poel a une petite avance sur ce genre de course. Je pense, hein, je ne suis pas un grand spécialiste.
Ne serait-ce
peut-être.
Sur Paris-Roubaix, l'expérience de l'avoir déjà fait et de connaître un peu les secteurs pavés.
C'est un coureur vraiment costaud. Voilà, mais maintenant, Pogacar...
Puis il aura un esprit revanchard d'avoir perdu ce week-end sur le Tour des Flandres.
Je pense qu'ils vont se partager les courses, donc on peut parier que ce sera ou l'un ou l'autre.
Bon, eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention aussi dès le week-end prochain. On va parler Formule 1 maintenant, messieurs, avec la victoire, j'ai envie de dire enfin, de Max Verstappen cette saison, même si on n'en est qu'à la troisième course.
C'est extraordinaire de dire que c'est une surprise que Max Verstappen gagne la troisième course
voilà,
de la saison.
Voilà, c'est le cas. Il a devancé les deux McLaren de Norris et Piastri, mais tout ça se tenait en moins de 3 secondes sur les trois premières voitures. Donc, des grands prix de Formule 1 qui sont vraiment haletants en ce début de saison.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir, d'abord, depuis la fin de saison dernière, et on peut dire l'avènement, puisqu'ils ont gagné le titre constructeur des McLaren. Donc, ça, c'était vraiment formidable. Ça a donné tout d'un coup beaucoup d'animation et beaucoup d'intérêt pour ce championnat de Formule 1. Là, ça a redémarré sur les mêmes dispositions que la fin de saison dernière. Donc, c'est bien. Belle surprise de Verstappen, qui avait déjà coiffé tout le monde au poteau lors des qualifs.
Exactement.
Donc ça, c'était déjà une grosse surprise. Je crois que tout le monde a bien compris que les McLaren étaient un poil plus rapides. Et on le voit bien d'ailleurs avec la voiture de Verstappen, puisque ses coéquipiers, puisqu'il en a déjà eu deux en trois courses, même s'ils sont évidemment moins forts que lui, sont tellement loin et dans l'incapacité pour l'instant de rapporter quelques points importants à l'écurie, donc c'est embêtant pour les Red Bull, mais ça nous promet pour le coup de belles empoignades. Très déçu pour l'instant, très décevant pour les Ferrari.
Exactement, quatrième.
Voilà, Charles Leclerc tire un peu son épingle du jeu, mais là il finit à 16 secondes. Donc c'est pas possible. Hamilton est trop loin, septième.
Ouais, presque 30 secondes.
Voilà, 30 secondes. Donc c'est voilà, il y a clairement. Pas un problème, puisque ça existait déjà avant, même si l'année dernière, ils avaient montré quand même des petites choses intéressantes. Mais là, la saison va être compliquée.
En tout cas, ils s'efforcent de progresser à chaque course, mais pour l'instant, effectivement, voilà, on sent aussi qu'il peut y avoir une lutte interne, parce que, clairement, Cédric Vasseur a dit qu'il n'y aurait pas de pilote numéro 1, malgré l'arrivée d'un septuple champion du monde.
Oui, mais pour l'instant, Charles Leclerc est plus rapide.
Voilà.
Pas énormément, mais il est plus rapide, il est chez lui. Il était là, en tous les cas.
Et il prend plus de points que Lewis Hamilton, pour l'instant.
Il prend plus de points, il est devant. Donc, il a il est normal qu'il ait de l'ambition et de finir premier pilote chez lui.
Ça ne doit pas être évident de gérer deux pilotes comme ça.
C'est pas la première fois que...
Ouais, chez Ferrari, c'est assez monnaie courante.
Voilà, ils ont l'habitude de gérer ça. Ils ont un super patron. Donc, je pense que ça va le faire, mais ça va être difficile pour Hamilton. S'il n'a pas plus s'il n'est pas plus rapide, ça va être difficile pour lui, je pense, moralement aussi, de pouvoir continuer à s'accrocher. Alors, faire des top 8, des top 10, je pense que ce n'est pas, ça, c'est pas pour ça qu'il est venu.
C'est le minimum qu'on attend de Ferrari.
Mais clairement, on a, même si ça ne fait que 3 courses, on a clairement les 3 premiers du championnat.
Mais le fait d'avoir changé d'écurie, peut-être, il faut peut-être lui laisser un tout petit peu de temps, même qu'il soit
Hamilton. Forcément, tu as raison, il faut lui laisser plus de temps, mais c'est Ferrari et c'est Hamilton. Ouais. Donc, voilà, ils n'ont pas le temps, en fait. Ça fait trop longtemps que Ferrari court après les succès, court après les titres. Ils n'ont pas engagé Hamilton juste pour l'image. Ils l'ont engagé pour remettre Ferrari en haut de l'affiche. Et alors, on savait que ce serait tout sauf facile. Même avec Hamilton, la voiture était quand même beaucoup trop derrière les McLaren et la Red Bull de
Verstappen.
Donc, voilà, c'est sûr que ça va pas se faire. Ça va même pas se faire en un an. Voilà, j'espère pour lui parce que Hamilton n'est quand même plus entre guillemets tout jeune. Hein, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Les trois dernières années ont été extrêmement compliquées pour lui depuis la perte du titre contre Verstappen justement. Bon, de la manière dont on s'en souvient pour beaucoup.
En 2021, oui.
Voilà. Donc non, ça va être compliqué. Voilà. Mais en tous les cas, une belle course et on espère qu'il y en aura d'autres comme ça.
Messieurs, un petit mot sur les premiers points pris par le rookie français Isaac Hadjar sur sa Racing Bulls. 8e de ce Grand Prix.
Bah, c'est d'autant plus intéressant qu'on s'en souvient de sa première course.
Oui. Qui n'a pas eu lieu, pour le coup.
Où il a cassé la voiture et est parti dans le décor, dans le tour de formation. Donc c'est d'autant plus fort. Alors on voit que les jeunes cette année ont quand même, comme souvent d'ailleurs, les nouveaux, les rookies, sont souvent assez rapides. Mais on voit cette année qu'il y en a quelques-uns qui sont rapides et puis d'autres qui ont beaucoup de difficultés. En plus, pour Hadjar, il a une voiture et notamment un baquet, cette course-là, qui était très compliquée pour lui, puisqu'il avait mal partout, apparemment, il était très inconfortable. Donc là, il découvre en plus, il y a quand même un bel écart entre la Formule 1 et les séries qui suivent, et notamment dans laquelle il concourait jusqu'à présent. Physiquement, on voit bien et on a bien compris depuis longtemps que c'est extrêmement difficile. Donc, on espère qu'ils vont améliorer ça. Et puis, je pense qu'il va nous montrer de belles choses, je pense. Il a l'air du caractère.
Il a l'air d'avoir du caractère, effectivement. Si on fait un petit point rapide sur le championnat du monde, donc Lando Norris est en tête avec 62 points, devant Max Verstappen, 61 points, et Oscar Piastri, 49 points. George Russell, dont on parle peu, mais il est là, 4e, 45 points. Il n'est finalement pas si loin. Il joue placé
Il a une bonne voiture. La Mercedes avait fait une bonne fin de saison l'année dernière. Donc, il confirme. On sait que c'est un bon pilote. Moi, j'ai un peu peur pour l'amitié. Alors, c'est pas très grave, hein, mais pour l'amitié des deux premiers, on sait que Verstappen et Norris sont bien copains. Là, il y a une petite passe d'armes à la sortie des stands qui aurait pu coûter cher aux deux. Beaucoup plus cher pour Norris, mais quand même malgré tout, puisque c'est lui qui aurait été coupable si jamais il y avait eu un incident. Et je pense que ça va peut-être se reproduire, ce genre d'action, que ce soit sur la piste ou dans les stands. Et à un moment donné, les deux veulent le titre, et à un moment donné, ça va se frictionner un peu, je pense. Même s'ils sont copains.
Eh bien, on va suivre ça aussi avec beaucoup d'intérêt dès les prochains Grands Prix. On rappelle qu'il y a 24 Grands Prix cette saison, donc on aura le temps de reparler de Formule 1 dans cette émission. Un petit mot, messieurs, aussi sur Richard Gasquet, qui vient de passer le premier tour cette nuit du Masters 1000 de Monte Carlo. C'est clairement le début de la tournée d'adieu, là. On le sait depuis l'année dernière. Hein. Il a annoncé à Richard Gasquet qu'il terminerait sa carrière à Roland-Garros. Mais là, il a brillamment, j'ai envie de dire, passé le premier tour contre l'Italien Darderi. Il s'est battu, il a lutté pendant 3 sets. Il est allé chercher son match et pour s'offrir un deuxième tour sur ce Masters 1000.
C'est dommage de dire aujourd'hui, à la fin de la carrière de Gasquet, que c'est beau ce qu'il vient de faire, parce que bon, il a quand même malgré tout une belle carrière, et là c'est évidemment la fin pour lui. Voilà, chaque fois qu'il pourra gagner un match, je crois que ça nous fera plaisir, parce qu'on le reverra un petit peu. Ça reste un joueur atypique malgré tout, un joueur dont on attendait évidemment tellement, tellement plus au moment de ses batailles avec Raphaël. Voilà, bon, c'est bien pour lui, on espère qu'il va en gagner d'autres quand même.
Voilà, et qui va pouvoir terminer, on le disait hors antenne, avec au moins une victoire au premier tour à Roland-Garros pour s'offrir un deuxième match, probablement sur le central Philippe Châtrier.
Comme tu disais, que le tirage soit favorable, il faut absolument qu'il passe le premier tour. Je pense, pour lui, finir sur un match gagné, enfin, il finira forcément sur un match perdu, puisqu'il ne gagnera pas le tournoi, on peut le dire sans gêne, mais il faut qu'il en gagne un, quoi. C'est important de finir comme ça.
Eric Figuier, on va continuer avec vous sur un tout petit mot rapide sur le Masters d'Augusta qui débute le week-end prochain, la semaine prochaine, avec un seul Français, Mathieu Pavon.
Oui, le tournoi des maîtres qui commence dans moins d'une semaine maintenant, puisqu'ils vont commencer jeudi, pour nous vendredi matin, avec un concours de par 3 juste avant, qui est toujours très intéressant pour le public, pour les familles, etc. Un seul Français. C'est normal, hein, Mathieu Pavon. Alors d'abord, c'est normal que ce soit lui, puisqu'il a déjà fait une 12e place l'année dernière. Il est encore dans les 50 meilleurs mondiaux, ce qui malheureusement ne pourrait ne pas durer, parce que ses résultats cette année ne sont pas très très bons. Donc petit à petit, il remonte. Mais en tous les cas, il est qualifié. Il a montré l'année dernière qu'il avait le niveau pour être dans les meilleurs mondiaux et aussi le niveau pour briller à Augusta, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Donc voilà, il n'arrive pas avec malheureusement assez de confiance pour qu'on puisse mettre, comme on dit, un petit billet sur ses performances. Mais voilà, on va voir, je pense, puisqu'on attend ça depuis le début de la saison, on va voir s'il confirme avoir le niveau, même si on peut comprendre hein, tout à fait qu'il y ait des baisses de régime, c'est aussi normal. Mais voilà, il y a des révélateurs, et ce Masters, c'est un révélateur, et puis je pense qu'on va avoir... parce que je pense qu'ils seront au rendez-vous, une bataille extraordinaire. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont se mêler à la lutte, mais je pense qu'on aura une bataille extraordinaire entre les deux numéros 1 et 2 mondiaux, entre Rory McIlroy et Scotty Scheffler. Voilà. Donc j'ai vraiment, moi et tous les amoureux de la petite balle blanche, ont vraiment hâte que ça démarre.
On voit que vous êtes prêts, parce que vous êtes déjà paré de vert, ce que ne voient pas nos auditeurs, mais voilà, vous êtes prêts à revêtir la veste verte du vainqueur de...
Ce vert-là, qui en soi n'est pas très très beau, pour ce qui est du Masters, est un vert fabuleux.
Messieurs, on va terminer cette émission avec vos coups de cœur. Pierre Forest, on va commencer par vous.
Si tu le permets, Olivier, je vais donner deux coups de cœur.
Allez, deux coups de cœur.
Pour le rugby. Donc d'abord, Pratik Touyfois, qui a signé un contrat de 3 ans à Toulon. Donc bravo au club, à son club formateur, hein, la GSL Normandie. Et donc il a fait une éducation sportive et scolaire en Nouvelle-Zélande. Hein. Il faisait partie des clubs des Hurricanes. Il avait été convoqué déjà par l'équipe de France des moins de 20. Donc... c'est bien pour lui. Il a choisi maintenant la voie fédérale française. Et puis une autre jeune, toujours dans le rugby, une fille, hein, Malia Taufenoa, pensionnaire de l'académie de Nouméa il y a un an à peu près, qui a intégré l'académie de Toulouse, du Stade Toulousain, au mois de septembre l'année dernière, et qui là est convoquée en équipe de France féminine des moins de 18. Donc on parle beaucoup de la jeunesse, et puis ben, quand celle-ci est réussie, je crois qu'il faut en parler. Donc mes deux coups de cœur vont à ces deux jeunes-là.
Eh bien voilà, on espère qu'on en parlera de nouveau dans cette émission, dans les équipes de France par exemple. Eric Figuier.
Bah, puisque Pierre a eu un double coup de cœur, je ne vais pas évidemment me priver, hein, donc je vais parler exceptionnellement de deux golfeurs qui se trouvent être des golfeurs de Tina, donc ça tombe très bien pour moi, de beaux golfeurs de Tina, de
dont
jeunes...
Dont vous êtes le nouveau président, on peut le dire.
Dont il s'avère effectivement que je suis le nouveau président, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que les jeunes, effectivement, progressent, alors qu'ils soient de Tina ou qu'ils soient des autres clubs de Nouvelle-Calédonie, mais en l'occurrence, ça fait d'autant plus plaisir. C'est Louis Chazal-Martin et Sacha Corlouer, dont j'avais parlé il y a quelques temps de ça. Sacha a fait un quart de finale du championnat de France amateur, ce qui est une très très belle performance, en ayant battu au passage le numéro 1 de la qualification. Donc c'est très très bien. Il confirme, voilà, il va partir aux États-Unis cet été, enfin cet hiver pour nous, et il confirme son très bon niveau et son gros potentiel. Et Louis Chazal-Martin, qui est lui plus jeune, qui est parti pour quelques mois en métropole avant de nous revenir, et qui devrait pouvoir normalement défendre les couleurs de Tina au championnat de France par équipe au mois de mai, où on est engagé en 3e division, on monte progressivement les échelons. Et Louis Chazal-Martin vient de gagner un grand prix en France, ce qui, là aussi, vu le niveau qui est quand même un peu plus important que la Nouvelle-Calédonie, est une très très belle performance. Il grandit en plus, physiquement, il s'étoffe, donc c'est une très bonne chose.
Bon, on leur souhaite à tous les deux une belle progression et une belle carrière. Messieurs, merci à tous les deux d'avoir été avec moi sur cette émission ce soir, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.